bonjour et bienvenue pour ce nouveau message de l'église Hillsong France. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter www.hillsong.fr.
Bonjour à tous. Restaurer, c'est ramener quelque chose ou quelqu'un à son état d'origine. Et mon premier point aujourd'hui, et donc le premier domaine aussi dans lequel je crois que Dieu veut amener de la restauration, c'est notre joie. Donc le premier point aujourd'hui, c'est Dieu va restaurer notre joie. Avant de rentrer dans les détails d'ailleurs, laissez-moi vous partager quelque chose que j'ai vraiment sur le cœur. Même si la définition de restaurer, c'est de ramener quelque chose ou quelqu'un à son état d'origine, je crois vraiment que ce n'est pas ça la façon que Dieu a d'agir. Aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on réalise qu'on sert un Dieu en fait et qu'on croit en un Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Un Dieu en fait qui ramène de la mort à la vie, un Dieu qui trace un chemin dans le désert et qui fait couler et jaillir des fleuves dans des endroits arides. C'est pour ça en fait d'ailleurs que Paul nous exhorte et la semaine dernière Jonathan nous a rappelé ce verset-là dans Romains 12 verset 2 qui dit « Ne vous conformez pas à ce monde-ci mais soyez transfigurés », d'autres versions disent « transformés » par le renouvellement de votre intelligence. D'autres versions disent « Vous allez recevoir une intelligence nouvelle pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréé et parfait. » Il y a des choses du passé qui doivent rester en fait dans le passé. Je crois qu'il y a des choses auxquelles on doit arrêter de s'accrocher. Je crois qu'il y a peut-être des fondations sur lesquelles on s'est appuyé et il faut arrêter de s'appuyer sur certaines de ces fondations. Oui, je crois que Dieu va restaurer cette année en 2020, mais en faisant quelque chose de nouveau. Je crois que Dieu veut restaurer notre église, veut restaurer notre pays, veut restaurer notre monde. C'est son plan depuis le début, mais il veut pas juste ramener des choses à son état d'origine. Il veut faire quelque chose de nouveau. Il veut restaurer à nouveau. Il veut renouveler. La première chose d'ailleurs que je pense que Dieu veut renouveler dans notre joie, c'est la fondation de notre joie. La parole nous dit en fait dans Galates 5, versets 22 et 23, elle nous explique en fait que la joie, c'est un fruit de l'esprit. La joie, c'est un fruit de l'esprit. Je suis conscient en fait que beaucoup de choses se sont passées et qu'on a tous à des échelles complètement différentes eu des occasions de se faire voler notre joie. Je parle de simplement notre histoire, notre passé, notre vécu. Il y a tellement de raisons pour lesquelles notre joie peut diminuer. Il y a tellement d'occasions qui peuvent venir nous voler notre joie. Et je veux minimiser aucune situation. Mais je veux quand même te dire qu'il y a de l'espoir et qu'il y a un moyen de renouveler ta joie. Une ferme fondation qui est la parole de Dieu et qui nous explique que la joie d'ailleurs est un fruit de l'esprit. Les amis, quelle est la fondation de notre joie? Oui, notre joie peut être affectée par les circonstances. La perte d'un proche, la perte d'un emploi, l'incertitude, l'inconnu, tellement de choses, de l'angoisse qui monte. Il y a tellement de raisons et tellement de circonstances qui veulent venir nous voler notre joie. Mais je prie qu'alors que tout ça a pu se produire, qu'on ait la ferme assurance que Dieu veut renouveler notre joie au-delà des circonstances. Par son esprit, produire du fruit et du fruit en abondance. Oui, les circonstances peuvent venir impacter ma joie, mais la fondation de notre joie, les amis, la fondation de notre joie ne seront jamais les circonstances. La parole dit que la joie est un fruit de l'esprit. Et je veux croire que Dieu va restaurer une joie qui semblera peut-être incompréhensible au monde qui nous entoure, mais qui sera fondée sur lui, sur sa parole et sur son esprit. Les amis, je crois fermement que la première chose que Dieu veut renouveler dans notre joie, c'est la fondation, qu'on comprenne que oui, même si les circonstances peuvent venir affecter notre joie n'est pas basée, fondée sur ces circonstances, mais elle est le fruit de son esprit. La deuxième chose que je pense que Dieu veut renouveler dans notre joie, c'est la cause de notre joie. La parole dit, d'ailleurs, dans le psaume 51, verset 14, pasteur Brian nous l'a dit il y a deux semaines, c'est David qui dit, franchement, dans une situation vraiment complexe et vraiment compliquée, il est vraiment au plus bas, il a sincèrement pas de raison de se réjouir. C'est compliqué pour lui, c'est un moment dur dans sa vie et il s'écrit dans ce psaume 51, verset 14, il dit « Rends-moi la joie de mon salut, que tu accomplis et affermis-moi par ton esprit généreux. Est-ce que nous sommes dans la joie pour ce qu'il a déjà accompli ou est-ce que nous sommes dans l'attente dans ce qu'il va faire pour être joyeux? Et si je dis ça, c'est que je crois que dans une saison où les raisons en fait d'être dans la joie n'abondent pas, Dieu veut nous rappeler toutes les raisons que nous avons de nous réjouir. Et je ne suis pas juste en train de t'encourager à tous les matins prendre une feuille et écrire toutes ces raisons. Je suis en train de te dire que Dieu veut restaurer notre joie. Et pour ça, il veut aussi lui-même te rappeler toutes les raisons pour lesquelles tu as de te réjouir. La parole nous dit justement dans Psaume 103, verset 2, que mon âme bénisse l'Éternel sans oublier aucun de ses bienfaits. Que mon âme bénisse l'Éternel sans oublier aucun de ses bienfaits. Quand notre âme est accablée, rappelons-nous qu'on peut soumettre notre âme à notre esprit et qu'on peut soumettre notre esprit à l'Esprit de Dieu. Et donc laissons l'Éternel mettre tous ces sujets de reconnaissance et ces sujets de joie dans notre bouche. Les amis, c'est tellement important qu'on se rappelle des causes de notre joie. Encore une fois, notre joie, elle n'est pas fondée sur nos circonstances. Notre joie est fondée sur sa parole et c'est son esprit qui produit du fruit. Mais la deuxième chose qui est importante de se rappeler, c'est que Dieu peut venir nous rappeler tous les sujets qui vont apporter de la joie dans notre cœur. Seigneur, moi, mon âme est accablée, mais je veux soumettre mon âme à mon esprit et mon esprit à ton esprit. Seigneur, et rappelle-moi sans oublier aucun de tes bienfaits, toutes les raisons et toutes les causes pour lesquelles j'ai de me réjouir. La première chose étant celle que David nous rappelle, Seigneur, rends-moi la joie du salut que tu accomplis en moi. Seigneur, peut-être que j'ai l'impression d'avoir rien, que chaque situation est compliquée en ce moment. Toute chose est faite pour me voler ma joie, mais Seigneur, je me réjouis pour mon salut et je me réjouis pour toutes les choses que tu ramènes à mon âme et qui font que je me rappelle que oui, il y a des raisons de se réjouir. Même si notre peuple, d'ailleurs, en tant que peuple français, a l'habitude d'être connu pour ses plaintes, soyons une église, une communauté, soyons des gens qui sont connus, eux, pour leur joie. Et pas une joie qui est juste basée sur « ah oui, en fait, c'est vrai ». Non, une joie qui est basée sur ce que l'Esprit va venir nous rappeler. Et on va oublier aucun de ses bienfaits. Je veux croire qu'il va renouveler les causes de notre joie. La troisième chose que je pense que Dieu veut renouveler dans notre joie, c'est l'expression de notre joie. D'ailleurs, il y a un passage dans Matthieu 11, je ne l'ai pas noté là, c'est Matthieu 11, 17, je crois, la référence, où en fait Jésus parle du peuple juif en disant « Mais en fait, à quoi est-ce que je vais comparer cette génération ?» On leur a joué de la flûte et ils n'ont pas dansé. Bon, j'avoue, moi, personnellement, aujourd'hui, tu me joues de la flûte, je ne suis pas sûr de danser, mais pour d'autres raisons. Mais après, on leur dit « On leur a joué des complaintes et ils ne se sont pas lamentés. » En fait, en gros, ils disaient « Mais c'est quoi cette génération ? Il est cassé ou quoi ? On joue de la musique, ils ne dansent pas, on se plaint, ils ne pleurent pas. » Et je crois donc que Dieu veut venir renouveler. La troisième chose, c'est l'expression de notre joie. La parole nous dit dans Romains 12, verset 15, « Mais réjouissez-vous avec ceux qui réjouissent, avec ceux qui se réjouissent, et pleurez avec ceux qui pleurent. » Les amis, il y a un temps pour tout. Et donc, soyons de ceux qui se réjouissent avec ceux qui se réjouissent. Il y a un temps pour tout, mais n'oublions pas de prendre le temps de se réjouir et de célébrer. C'est une chose d'ailleurs qui m'a beaucoup impacté quand je suis arrivé dans notre église parce que je me suis rendu compte qu'on prenait toute occasion pour pouvoir célébrer. Et c'est une bonne chose, les amis, célébrons. Je sais que c'est une année qui a été difficile, mais je crois que 2021, c'est une année où, peu importe les circonstances, on va être amené à changer l'expression de notre joie, à être de ceux qui cherche les moyens de pouvoir se réjouir avec ceux qui se réjouissent, et qui se réjouissent en tout temps. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi personnellement, oui. Vous êtes dans un bus ou dans un métro, et là, il y a quelqu'un qui se tape un fou rire. Et vous, vous ne comprenez pas pourquoi, mais vous commencez à rigoler. Et là, en 5 minutes, tout le monde rigole, personne ne sait pourquoi, mais parce qu'il y a justement quelqu'un qui a commencé à exprimer sa joie, à avoir un fou rire. Et enfin, moi, j'en ai déjà eu jusqu'à les larmes aux yeux comme ça, alors que je ne savais même pas, je ne connaissais pas cette personne. Tout ça pour dire que je pense que l'expression de notre joie est communicative. Ne privons pas le monde de notre joie. Même si notre peuple a tendance d'être justement connu pour ses plaintes, soyons un peuple qui est dans la joie et exprimons notre joie. Laissons Dieu venir renouveler l'expression de notre joie. Moi, de base, je suis pas quelqu'un qui aime faire la fête, je suis pas quelqu'un d'hyper festif. Mais alors que j'écrivais ce message, j'étais challengé en me disant, oui Seigneur, viens transformer et renouveler l'expression de ma joie. Je n'ai pas envie d'être de ceux qui restent comme ça, toujours critiques, à regarder ce qui va pas et à compter toutes les choses qui devraient changer. Mais Seigneur, renouvelle mon cœur et aide-moi justement à avoir une expression de ma joie qui est renouvelée, qui va être communicative et justement qui va intriguer. Parce qu'alors que j'exprime ma joie dans des circonstances qui sont incompréhensibles et sans précédent, je pense que le monde va se dire, mais pourquoi il exprime sa joie? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a de plus? Qu'est-ce qu'il a lui? Alors Seigneur, je prie que cette année, tu puisses venir renouveler l'expression de notre joie. Et le dernier point, la perspective de notre joie. Je ne sais pas si vous connaissez un gars qui s'appelle Jacques dans la Bible. Jacques, c'était vraiment, il faisait vraiment partie du petit connect group de Jésus, quoi. C'est vraiment son gars. Jacques, c'est une personne proche de Jésus. Et ce que j'aime avec Jacques, c'est qu'il est vraiment très terre à terre. Et voici ce qu'il nous dit dans Jacques 1, versets 2 à 4. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que l'épreuve de votre foi produit de l'endurance. Or, il faut que l'endurance accomplisse son œuvre pour que vous soyez accomplis et parfaits à tous égards et que vous ne manquez de rien. La quatrième chose que je pense que Dieu veut renouveler, c'est la perspective de notre joie. La perspective de notre joie. Et c'est vrai que là, Jacques, peut-être ça peut nous sembler qu'il va trop loin. Mais en gros, il nous dit, mais les amis, gardez de la perspective. Parce que considérez d'ailleurs comme un sujet de joie complète les épreuves que vous rencontrez. Parce que tout ça œuvre pour que vous soyez accomplis et parfaits à tous égards. Les amis, je ne sais pas par quoi on passe individuellement. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on passe actuellement par des choses diverses, compliquées peut-être pour certains. Mais je sais que nous avons un Dieu qui lui restaure, qu'il construit, qu'il utilise toutes les circonstances et qui fait que toutes ces circonstances concourent à mon bien et au bien de ceux qui l'aiment. Alors soyons de ceux, en fait, qui, par la foi, se réjouissent dans l'épreuve. Parce que notre perspective est renouvelée. Et notre perspective ne dépend pas tout simplement de ce qu'on voit par nos yeux naturels, mais elle dépend des yeux de la foi. Alors je prie alors que cette année, on rentre en 2021. On ait cette compréhension que Dieu veut aussi changer la perspective de notre joie. Et qu'on puisse se réjouir par avance. Être de ceux qui croient, malgré les circonstances, que Dieu va restaurer. Amen. Et d'ailleurs, pourquoi pas, si je peux te lancer un défi, commence à réfléchir. Comment est-ce que tu vas pouvoir partager et communiquer ta joie cette semaine? En te rappelant d'ailleurs que ta joie n'est pas basée sur tes circonstances, en te rappelant que c'est lui en fait qui veut te rappeler toutes les choses pour lesquelles qu'il a déjà accompli et pour lesquelles on peut se réjouir, bah commence à exprimer ta joie, à changer de perspective et à communiquer ta joie autour de toi. La deuxième chose que je crois que Dieu veut vraiment restaurer, c'est notre foi. Donc mon deuxième point, c'est Dieu va restaurer notre foi. Je m'explique. Si on est honnête, oui, dans des temps difficiles, notre joie est attaquée. C'est vrai. Mais notre foi l'est aussi. Et c'est peut-être ton cas aujourd'hui. Mais Steven, je prie, j'ai fait, je ne sais même plus comment prier. Ma foi, elle en a pris un coup. Je vais être honnête avec toi. Et alors, en fait, qu'on n'est pas dans la joie, c'est visible, en fait. Quand on n'est pas dans la joie, le premier point, ça, c'est visible. Mais par contre, quand notre foi est attaquée, c'est peut-être moins visible au premier abord. Mais je crois que Dieu veut aussi venir et restaurer notre foi. Les doutes, le manque de visibilité, les échecs, et la liste est longue. Toutes ces choses-là peuvent venir et détruire notre foi. Des nombreuses fois où on prie, où on prend le temps, et on ne voit pas les choses avancer comme on le voudrait. Et d'ailleurs, si je te posais la question, à quoi ressemble ta foi aujourd'hui ? À quoi ressemble notre foi aujourd'hui ? Si elle était visible, comme notre joie peut l'être, à quoi est-ce qu'elle ressemblerait ? Laisse-moi te dire que je crois que Dieu va restaurer notre foi. Et d'ailleurs, la parole nous dit qu'il est l'auteur de notre foi. Hébreux 12, verset 2, et ça c'est mon petit A, donc il est l'auteur de notre foi. Encore une fois, c'est Dieu qui va restaurer. Et pour ça, il est l'auteur et il veut être l'auteur de notre foi. Hébreux 12, verset 2 nous dit « Les yeux fixés sur Jésus, qui est le pionnier de la foi et qui la porte à son accomplissement, au lieu de la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix, méprisant la honte, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. » On lui proposait la joie et il l'a méprisée parce qu'il savait ce qui allait venir derrière. Il savait ce qui allait venir derrière. Lui, Jésus, est l'auteur et le consommateur de notre foi. D'autres disent, là, j'aime beaucoup cette version parce qu'elle dit « il est le pionnier de notre foi ». Alors laisse-moi te dire que si tu n'arrives plus à croire aujourd'hui, que ta foi en a pris un coup, Dieu, qui est le créateur de toutes choses, veut être le pionnier de ta foi. Seigneur, viens restaurer notre foi, ma foi dans cette saison. Que celle-ci ne repose plus sur ce qu'on a manqué de voir, mais que notre confiance soit sur le fait qu'il est à l'origine de notre foi. C'est clair qu'il y a tellement de choses qui peuvent venir nous faire douter maintenant, aujourd'hui, mais laisse-moi te dire, tu peux lui faire confiance. Aujourd'hui, il veut être le pionnier de ta foi, alors que tu es dans un terrain où ça semble compliqué, où tu n'as peut-être plus confiance. Il est le pionnier de ta foi. La deuxième chose que je veux te dire, et d'ailleurs, Paul nous rappelle, avant que je passe à la deuxième chose, Paul nous rappelle dans Romains 12, verset 3, je ne vais pas le lire, mais qu'il nous a donné à chacun une mesure de foi. La deuxième chose que je pense qu'il veut renouveler dans notre foi, c'est la compréhension de la puissance de notre foi. Alors qu'il veut restaurer notre foi, je pense qu'il veut également qu'on prenne conscience de la puissance de notre foi. La parole, justement, dit dans Matthieu 17, verset 20, « Je vous le dis en effet, si vous avez la foi comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici à là et elle se déplacera, rien ne vous sera impossible. » Je me rappelle d'ailleurs avec un ami à moi qui s'appelle Mathieu, on a commencé il y a plusieurs années à prier ensemble. Et un de ses sujets de prière est concerné sa famille. Mais sincèrement, je vais pas m'attarder à expliquer toute la situation, mais c'est tellement compliqué que pour la première fois, j'ai vraiment senti que ma foi n'était vraiment pas plus grande qu'un grain de moutarde. C'était une situation tellement difficile que je me dis, waouh, là c'est vraiment un miracle qui doit se produire. L'année d'après, au Nouvel An, j'ai passé le Nouvel An avec toute sa famille rassemblée. Et à ce moment-là, Dieu m'a rappelé. Tu as prié pour ça. Tu doutais de ta foi, mais ta foi était là. Et cette foi-là, elle a eu un impact dans cette situation. Ta foi, aujourd'hui, rappelle-toi qu'elle a de la puissance. Un gars vient comme ça, un homme vient devant Jésus avec son fils qui est muet. Et il ne sait pas trop comment s'adresser à lui dans Marc 9, verset 23. Il dit, mais si tu peux faire quelque chose, laisse-toi émouvoir et viens à notre secours. Et en gros, Jésus, il est surpris parce que cette personne-là, il dit, mais si tu peux faire quelque chose. Et le Père s'écrie aussitôt, je crois, viens en secours de mon manque de foi. Et Jésus a guéri cet enfant. Si nous, son Église, les amis, on arrête de croire, si nous, on arrête de croire à la puissance de notre foi, aussi petite soit-elle, qui va croire. Les amis, je crois que Dieu veut restaurer cette année notre foi et la compréhension qu'on a de cette puissance. Le troisième point ici, c'est, je pense que Dieu aussi veut restaurer la compréhension de la portée de notre foi. Jésus a une conversation avec Thomas et il lui dit en gros, c'est bien, je suis content, tu as cru, mais tu as cru parce que tu as vu. Et il lui dit « Heureux, en fait, ceux qui ont cru sans voir. » Et ça m'a toujours challengé. La réalité, en fait, c'est qu'à ce moment-là, j'ai compris que notre foi a un impact tellement plus grand est tellement générationnel. La parole nous dit dans Hébreux 11, versets 11 à 13, « Par la foi, Sarah, elle aussi, qui était stérile, a été rendue capable de devenir mère alors qu'elle en avait depuis longtemps passé l'âge. En effet, elle était convaincue que celui qui avait fait la promesse est fidèle. C'est pourquoi aussi d'un seul homme, plus encore d'un homme déjà marqué par la mort, sont issus des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et que les grains de sable qu'on ne pourrait compter sur le rivage de la mer. C'est dans la foi que tous ces gens sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Mais ils ont vu et salué de loin. Et ils l'ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur cette terre. » Dieu veut restaurer notre foi, les amis, la foi de son Église, car la foi d'aujourd'hui a un impact sur les générations. Rappelons-nous qu'il y a tellement de gens qui sont peut-être même partis sans voir l'accomplissement. Mais rappelons-nous que la portée de notre foi n'est pas juste pour ce monde présent, n'est pas juste pour ce monde qu'on voit, mais la portée de notre foi est générationnelle. Alors je t'encourage, alors que Dieu veut être le pionnier, le restaurateur de ta foi, à continuer à croire pour ta famille, à continuer à croire pour tes collègues. Il veut que tu comprennes que la portée de ta foi est générationnelle. Et s'il y a une personne que tu peux croire, c'est lui. Et comme je l'ai dit, en fait, tout à l'heure, Jacques, c'est vraiment un gars qui est terre à terre. Et à chaque fois, dans Jacques 2, il s'adresse à une église pour laquelle c'était plus facile d'avoir la foi que de faire le bien. Et à eux, il leur dit en fait, les amis, la foi sans les actes, elle est morte. Et je veux croire et je me demande, est-ce que pour nous aujourd'hui, c'est plus facile de juste faire le bien, aider quelqu'un, que d'avoir la foi pour les gens autour de nous ? J'aime beaucoup que notre église a un département qui s'appelle Certa Ville et qui aide de façon conditionnelle, mais je crois que cette aide toute seule est incomplète. Notre monde a besoin de Dieu et il a besoin d'une église rempli de foi, qui annonce sa bonne nouvelle. Soyons de ceux qui voient leur foi renouvelée, peu importe ce qui a pu se passer. On se rappelle que lui est l'auteur de notre foi, que notre foi est puissante et qu'elle a un impact générationnel. Donc si je peux te défier aujourd'hui, commence à te poser cette question. Comment est-ce que je peux partager ma foi cette semaine ? Comment est-ce que je peux partager ce que Dieu a déjà fait ? Comment est-ce que je peux tout simplement en parler ? En plus de partager ma joie, parler de ce que lui, il a fait pour moi. Et mon troisième point, et le troisième domaine dans lequel je pense que Dieu veut venir restaurer, c'est nos choix. Dieu veut restaurer notre façon de faire des choix. Il est clair en fait que quand je n'ai pas la joie et que ma foi est attaquée, mes choix sont les premiers à impacter. Mon manque de joie a tendance à faire que je fais des choix où je privilégie le bonheur instantané. Et du coup, en fait, quand je fais ces choix-là, c'est souvent pas les meilleurs pour moi. Mon manque de foi, lui, fait que je base souvent mes décisions sur mes propres capacités. Étant imparfait, illimité, ces choix sont jamais les meilleurs. Pas par mes manquements, mais parce que souvent, je mets pas Dieu au centre. Et dans Romains 10, versets 14 et 15, en gros, Paul dit, mais comment est-ce qu'ils vont croire s'ils ont jamais entendu, en fait? Et comment est-ce qu'ils vont entendre si personne ne leur parle? Comment quelqu'un va leur parler si personne n'est envoyé? Et je crois en fait que notre joie et notre foi sont des choses cruciales parce que, alors que nous on croit, on est aussi dans l'obligation après d'agir, de partager ce qu'on croit, de prendre le choix de faire, dans une situation qui est compliquée comme celle-ci, de faire le choix de continuer à partager sa parole, de continuer à annoncer la bonne nouvelle. Et la première chose, d'ailleurs, que je pense que Dieu veut restaurer dans nos choix et dans la façon de faire nos choix, c'est que Dieu veut restaurer notre liberté. La parole dit, « Mais maintenant, libérés du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit une consécration et pour fin la vie éternelle. » Il y a marqué « Maintenant, libérés du péché ». Alors qu'on était incapable de faire le bien. La parole, je vous invite à lire Romains 7 et Romains 8, ils nous expliquent comment c'est difficile par nos propres forces de faire le bien. Là, la première chose que Jésus est venu faire, c'est nous rendre libres et nous rendre libres du péché, pour pouvoir faire les bonnes décisions. Donc Dieu me libère et me rend capable de faire les bons choix. Et la deuxième chose que Dieu veut restaurer, c'est ma connaissance pour faire les bons choix. Et j'en ai parlé déjà tout à l'heure dans Romains 12, verset 2. La parole dit « Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transformés, transfigurés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Il ne veut pas juste transformer ma liberté, c'est-à-dire me rendre libre de pouvoir faire le bon choix. Il veut aussi transformer ma connaissance, que je puisse être capable de faire les bons choix. Et la troisième chose, et je finis avec ça, c'est que Dieu veut restaurer ma capacité de faire les bons choix. Si tu as l'impression que cette année a été trop difficile et que tu n'es plus capable de faire les bons choix, laisse-moi t'encourager avec ce verset dans Philippiens 2, verset 13 qui dit « Car Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire pour son bon plaisir. » Alors que tu as peut-être l'impression que c'est impossible pour toi de faire le bien, de faire une différence après tout ce que tu as vécu, laisse-moi te dire que lui, qui est le pionnier de ta foi, il place en toi non seulement le vouloir, mais aussi le faire. Une prière d'ailleurs que je veux vous encourager à faire quand les choses sont difficiles et que c'est difficile de faire en soi, c'est « Seigneur, merci car tu me rends libre de faire les meilleurs choix, que tu me montres ce qui est bon pour moi et que tu m'aides à faire les bons choix. » Et je crois en fait que Dieu veut restaurer dans tous ces domaines, mais surtout dans ceux qui sont tout simplement le fondement de son peuple, c'est-à-dire notre foi, notre joie et nos choix. J'aimerais te donner l'opportunité de prendre la décision de suivre Jésus. La première chose en fait que Dieu veut restaurer, c'est ta relation avec lui. Il nous aime depuis le début des temps. La parole d'ailleurs nous dit que cet amour, ce n'est pas que nous ayons aimé Dieu, mais que lui, il nous a aimés et qu'il nous a envoyé son Fils comme l'expiation de nos péchés. Il est aussi le pionnier de la restauration de ta relation avec lui. Il veut aussi restaurer ta relation avec lui. Et tout ce que tu as à faire aujourd'hui, c'est juste d'accepter cette invitation. Pour cela, d'ailleurs, je t'invite à faire cette prière avec moi. La parole nous dit d'ailleurs que c'est de ta bouche. Tu reconnais Jésus comme le Seigneur. Et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a réveillé d'entre les morts, tu seras sauvé. Alors si tu le veux, si tu veux que cette relation entre toi et lui soit restaurée, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, merci. Parce qu'alors que j'étais incapable de faire le bien, tu es venu pour que je puisse être libre. Tu es venu pour restaurer ta relation avec moi. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Et je te demande de m'aider à te suivre tous les jours de ma vie. Je veux te reconnaître dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci parce que tu restaures notre relation. Au nom de Jésus. Amen. Amen. L'Église, juste finir avec ça. Dieu va restaurer.
Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter www.hillsong.fr.